France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Paris au mois d'août, son aveuglante lumière, Aznavour l'a chantée et bien chantée. En 1965, invité dans l'émission Impromptu de vacances à dire ce que lui évoquait ce mot « vacances », Dominique Rollin confiait à Harold Portnoy son amour de la capitale au mois d'août. Elle parlait de son enfance en Belgique, de ses parents, de sa fille Christine, des personnages de ses romans, de sa maison de Villiers-sur-Morin en Seine-et-Marne, où elle vécut avec son mari, le sculpteur et dessinateur Bernard Milleret. Elle parlait de son livre « Le lit », dont la disparition de Bernard Milleret lui dicta l'écriture, et de comment s'opérait généralement pour elle le processus de l'écriture d'un livre. Impromptu de vacances, Dominique Rollin.
France Culture présente Impromptu de vacances, une émission de Harold Portnoy. Ce soir, entretien avec Dominique Rollin, assistante Yvette Tugeban.
Dominique Rollin, qui évoque pour vous le mot « vacances » ?
Oh, c'est un mot bien large. Il est extrêmement difficile de répondre d'une manière précise parce que, au fond, le mot « vacances » peut s'appliquer à tellement de choses. En réalité, pour moi, il me semble que la vie est une vacance perpétuelle. Je n'ai jamais le sentiment que les vacances commencent à une certaine date. Pour moi, le mot « vacances » coïncide tout aussi bien avec des périodes de travail qu'avec des périodes de repos. J'ai la chance extraordinaire de ne pas être obligée de travailler d'une manière enfermée. Et alors, j'ai le sentiment toujours que la vie est une vacance, puisque la vie est perpétuellement une sorte de préhension du monde extérieur, une communication avec le monde extérieur qui fait que tout est richesse, tout est liberté et tout est repos parce que tout est travail.
Et vous liez l'idée de vacances à l'idée de richesse, de liberté et de repos.
Oui, je me sens en vacances quand je peux travailler. Évidemment, il est certain qu'au moment du mois de juin, juillet, quand tout le monde part, et que je suis un peu obligée de partir aussi puisque les maisons d'édition ferment, puisque tout le monde s'en va, pour moi, le plaisir, c'est d'aller dans un endroit où je me sente suffisamment isolée et en repos extérieurement pour avoir cette espèce d'activité intérieure qui me permette ou de commencer un livre ou de l'achever.
Donc l'idée de vacances est liée au travail.
Exactement. Les dimanches, pour moi, n'existent pas, par exemple. Pour moi, le dimanche existe uniquement par le fait que je sens cette espèce de différence d'air. Vous voyez l'appartement que j'habite, qui est en pleine ville, qui est tout de même assez préservé du bruit, puisque je me trouve au cinquième étage. Eh bien, le dimanche, il y a un relâchement très curieux de l'atmosphère tout autour de cet appartement, qui fait que les rapports avec le monde extérieur changent. Et cela vous met dans une disposition de travail extraordinaire, une disposition à laquelle je tiens terriblement. Alors, c'est la seule chose, pour moi, qui caractérise un dimanche.
Et les mois d'été ?
Eh bien, les mois d'été, en général, je pars plutôt en juillet. Je trouve que partir au mois d'août, c'est vraiment extrêmement pénible. J'ai horreur de retrouver cette espèce de mouvement de foule ailleurs. Je trouve que c'est faux, ça n'existe pas. Ce que je veux, au contraire, c'est faire davantage le silence. Alors, on fait davantage de silence au mois de juillet. Et puis, passer le mois d'août à Paris, qui est divin, qui est merveilleux, parce que Paris devient une sorte d'énorme jardin aéré où on peut circuler, on peut respirer, on peut se reposer.
Vous le redécouvrez.
Exactement, oui, oui. La lumière a une qualité d'ailleurs étonnante. Paris au mois d'août est presque une ville italienne, me semble-t-il. Surtout avec tous les immeubles ravalés depuis un certain temps, qui donnent cet aspect vivant et charnu de la pierre des façades. Alors j'adore Paris au mois d'août.
Il n'y a pas cette tension qu'il y a tout le reste de l'année.
Voilà, il y a exactement au mois d'août cette espèce de relâchement que l'on éprouve le dimanche tout au moins à la belle saison. Même le dimanche en hiver aussi, c'est très différent. À Paris, c'est très différent. Il y a cette espèce de détente nerveuse. Vous savez, on vit au fond d'une manière folle dans Paris, folle et fébrile. Et je pense que quand on est écrivain, il faut essayer de se protéger le plus possible, de créer une distance entre cette vie folle et fébrile et soi-même. Il faut qu'il y ait un intermédiaire de silence.
Tout en se nourrissant de cette vie.
Ah, mais bien entendu. J'ai vécu pendant plusieurs années à la campagne, ce qui est une autre source d'intérêt, ce qui m'a d'ailleurs permis d'écrire des livres directement inspirés de cette vie à la campagne. Mais je pense que la vie à Paris est tout de même très très importante. Il y a un influx nerveux étonnant et dont on ne peut pas se passer. Le fait simple de descendre, par exemple, de son appartement et d'aller faire son marché dans le quartier. J'habite un merveilleux quartier d'Antiquaire, j'habite à deux pas de la Seine, j'habite non loin du Jardin des Tuileries. Tout cela forme une atmosphère merveilleuse. Il suffit d'un visage entrevu dans la rue, il suffit de deux mots échangés avec quelqu'un qu'on rencontre, il suffit de tous ces petits accidents qui n'ont pas l'air d'être directement liés, si vous voulez, à une création en train, mais qui, en réalité, sont autant d'étincelles, autant d'accidents merveilleusement heureux dans une vie d'écrivain.
Évoquer quelques souvenirs de vacances.
Les vraies vacances pour moi remontent à très loin. Vous savez que je suis née en Belgique et j'ai vécu en Belgique pendant une grosse partie de ma vie. Les vacances, c'était à l'époque de la vie scolaire, c'est-à-dire que toute la famille, mon père, ma mère, mon frère, ma sœur et moi, nous partions en général passer un mois au bord de la mer. La mer du Nord est très belle, très particulière. Ce n'est pas du tout la mer de la Normandie, ce n'est pas la mer de Bretagne, ce n'est évidemment pas du tout la Côte d'Azur. Il y a un côté d'austérité, de sévérité, de froid et de vent qui est merveilleux, qui m'a laissé une nostalgie étonnante, qui encore maintenant me visite et me nourrit et m'aide dans mon travail. Nous allions passer nos vacances en général sur une plage qui s'appelle La Panne, qui est juste à la frontière française, pas très loin de Dunkerque. Et alors, à l'époque, évidemment, La Panne était encore une petite ville extrêmement paisible, un peu familiale. Il y avait un tout petit casino, mais cela, le casino, pour nous, c'était une chose que l'on voyait de loin, qui était quelque chose de rutilant et d'un peu inaccessible. Et nous avions une vie très tranquille. Ma mère louait un tout petit appartement où nous étions tous assez inconfortablement entassés, mais nous vivions dehors le plus possible.
Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers d'odeurs, de
oui.
lieux ?
Il y a aussi un autre endroit en Belgique qui m'a fascinée, qui ne m'a jamais quittée, peut-être encore bien davantage que le bord de la mer. Nous avions passé nos vacances dans une maison qui est située dans ce qu'on appelle la campine limbourgeoise. La campine limbourgeoise ressemble un peu aux Landes, si vous voulez, en France, en moins ample, en moins grand, c'est-à-dire des landes de bruyère, du sable gris argent et des pins, des bois de pins. Alors, il y avait une qualité d'odeur. Je ne peux plus maintenant traverser un bois de pin sans avoir brusquement toute une bouffée de mon enfance qui me revient. Alors là, c'était absolument merveilleux.
Essayez de nous définir cette odeur, de la comparer.
C'est extrêmement difficile. Je me souviens, les premières vacances que nous avons passées là-bas, Je devais avoir dans les 8 ans, mon frère devait en avoir donc 6, puis une petite sœur, mais qui n'était pas tellement dans notre orbe, parce qu'elle était un peu trop jeune. Et c'était un village qui s'appelle Genk. Nous habitions dans cette maison qui était en dehors du village, qui était au sommet d'une colline boisée de pins, justement. Une très petite maison, je me demande même si elle n'était pas à moitié construite en bois, peut-être. Il y avait derrière une lande de bruyère avec un vieux puits complètement étouffé par les genêts. Un des grands plaisirs était de nous pencher au-dessus de ce puits, de voir apparaître nos reflets tout à fait au fond, à plusieurs mètres de profondeur, puis de cracher dans le puits. Enfin, vous voyez le genre de jeu. Autre chose, vous savez que la campagne limbourgeoise est dans plein pays flamand, donc très, très religieux, très, très mystique. Nous allions passer là le mois d'août, et le jour du 15 août, il y avait à l'époque, je ne sais plus si ça existe encore, la procession de l'Assomption, procession de la Vierge. Alors c'était une très très belle procession, avec tous les enfants du village et des environs déguisés en anges, en Sainte Marie, en Joseph, etc. Il y avait toute une sorte d'apparat, avec tout le village était semé de pétales de fleurs. Toutes les maisons du village devaient présenter ce qu'on appelait des reposoirs, c'est-à-dire que les fenêtres du rez-de-chaussée étaient transformées en petits hôtels, avec des cierges, avec des tout ce que les gens pouvaient mettre de précieux et de beau pour voir passer sous son dais le Saint-Sacrement. C'était l'époque où j'ai traversé une sorte de crise mystique très vive, très grande, et ces processions m'impressionnaient beaucoup, pas tellement seulement sur le plan mystique, parce qu'il y avait aussi chez moi tout un côté un peu carnaval, si vous voulez, un peu déguisement. Alors, une fois rentrée dans notre maison, là-haut, au sommet de la colline, j'adorais me déguiser en ange et faire se déguiser mon frère. Alors, pour les ailes, je demandais à ma mère de nous découper des ailes dans des épaisseurs, les épaisseurs de papier journal. Vous savez, plus il y avait d'épaisseur, mieux ça valait. Alors, c'était d'énormes ailes qu'elle nous cousait dans le dos. Je mettais une chemise de nuit, et à travers les allées du bois de la propriété, mon frère et moi, l'un derrière l'autre, nous marchions les mains jointes à réciter, n'est-ce pas, des sortes de litanies inventées, qui n'avaient d'ailleurs rien de religieux, parce que nous n'avons pas été élevés du tout d'une manière religieuse. Mon père était tout à fait anticlérical. Alors il y avait cette atmosphère très étrange, le bois de pin, vous voyez ce que c'est qu'un bois de pin, avec ses troncs rose, un peu grenu, qui ressemble aux colonnes des églises que l'on voit dans les tableaux des primitifs flamands, Van der Weyden, Bruegel, Memling, surtout Memling plutôt, je ne sais pas pourquoi je dis Bruegel. Nous étions donc dans ce bois de pin exactement comme dans une église. Il y avait un côté absolument clos et un côté vitrail aussi. La lumière qui tombe dans un bois de pin, qui est transformée par la distance et par les branches et les aiguilles de pin, donnait un côté un peu blafard, un côté rose, étrange, à cette espèce de procession où nous étions tout seuls. La maison elle-même, elle était très petite, on y entre de plein pied, ça alors je m'en souviens, je n'ai plus vu cette maison depuis l'âge de 11 ans, vous voyez, ça fait tout de même un certain bail, je pourrais la reconnaître entre des milliers d'autres maisons. Il y avait devant cette maison un espace plus ou moins nu, où il y avait un peu d'herbe. Pas de l'herbe, vraiment. C'était plutôt des graminées, des œillas. Vous savez, c'était un tout petit peu déjà genre bord de mer. Mais avec le sable gris, un sable d'argent. Ce qui changeait absolument l'atmosphère et la lumière. Il y avait aussi des digitales. Je me souviens avoir passé des heures à regarder de très très près les digitales que je trouvais absolument fascinantes. C'est fascinant, une digitale.
Mais ça, qu'est-ce que vous y voyez ?
C'était l'entrée dans quelque chose de particulier. Le cœur de la digitale a quelque chose de tellement profond. On entrait dedans comme on aurait pu entrer dans une chapelle. C'était un changement, c'était un seuil.
Nous sommes au seuil de cette maison.
Oui. Alors, avant d'y entrer, puisque vous aimeriez que j'y entre, il y avait une chose dont je voudrais parler. Les fenêtres du rez-de-chaussée étaient nanties de volets, comme on les faisait beaucoup à l'époque, qui étaient maintenues dans la journée ouvertes par de toutes petites figurines de fer qui représentaient des têtes de femmes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela. C'était des petites figurines qui étaient toutes faites sur le même moule, qui devaient dater probablement du Second Empire. Des petites têtes de femmes aux cheveux longs, avec de tout petits chapeaux sur la tête. Et ça a été, pour moi, une des premières, si vous voulez, évocations romanesques de personnages. J'avais le sentiment que chacune de ces têtes était différente. Or, elles étaient probablement rouillées d'une manière différente. Il y en avait qui étaient plus ou moins patinées, qui avaient été plus ou moins touchées. Donc, je voyais une différence entre elles. Alors, il y en avait que j'aimais plus ou moins.
Aviez-vous l'impression qu'elles bougeaient ?
Non, pas du tout. Je leur parlais, ça je sais que je leur parlais. Et que j'avais horreur à l'idée que les adultes pouvaient intervenir là-dedans. C'était toujours un peu une façon cachée. Dans la maison, il y avait une sorte de salle à manger. Il y avait derrière la cuisine qui donnait par quelques marches sur cet espace de bruyère avec le puits dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je me souviens aussi que la chambre où je dormais était en haut d'un petit escalier et complètement mansardée, avec une certaine tapisserie à toutes petites fleurs. Mon lit était placé justement près du côté mansardé, ce qui me donnait une certaine angoisse, cette espèce de plafond mansardé qui me descendait en oblique au moment du sommeil, m'a laissé des souvenirs assez angoissants et en même temps merveilleux. Parce que l'angoisse est toujours liée à un côté merveille, en tout cas pour moi.
Mais si vous voulez développer ce point.
Le côté merveille de l'angoisse,
oui.
Oh, mais j'ai des souvenirs comme ça de peur nocturne. Je me souviens que tout à fait à la fin de la guerre 14-18, j'étais toute petite. Ça a été d'ailleurs le moment de mes tout premiers souvenirs. J'avais été assez gravement malade, j'avais eu une fièvre muqueuse, avec un gros accès de fièvre. Et le cauchemar qui m'est revenu plusieurs fois, pendant plusieurs nuits consécutives, et qui devait justement correspondre à cette espèce de battement de la fièvre, était le suivant. Mon lit, dans ma chambre, alors ça se passait à Bruxelles, était placé le long du mur. J'imaginais que derrière ce mur, il y avait un couloir extrêmement étroit. Et dans ce couloir, il y avait toute une série de soldats allemands en casque à pointe, avec la baïonnette au canon, comme c'était à l'époque, qui, en mesure, venaient percer le mur, comme ça, pour m'atteindre. J'étais donc étendue dans mon lit et je m'attendais d'une seconde à l'autre à voir le mur s'ouvrir et me voir embrocher par ces fameuses baïonnettes. Voilà, ça a été un des souvenirs de peur nocturne. Si j'en ai eu d'autres, je ne sais pas, je ne me rappelle pas tellement. Si, il y a eu aussi autre chose. Je me souviens, dans la maison que nous habitions à Bruxelles, dans le bureau de mon père, il y avait au mur une gravure qui représentait une gargouille de Notre-Dame. Pour moi, Paris n'existait pas du tout à l'époque, enfin. C'était simplement une gargouille. J'imaginais pas ce que pouvait être une gargouille, mais j'étais fascinée par cette gravure. Je passais des heures à genoux sur la chaise qui était sous la gravure en question pour l'examiner. Et alors, j'ai rêvé, et ce rêve ne m'a jamais quittée non plus. Je l'ai traîné derrière moi dans ma vie. J'ai eu peu de rêves de cette qualité-là, mais celui-là, très net. J'ai rêvé une nuit que je me trouvais dans une maison vide, dont toutes les portes et toutes les fenêtres étaient ouvertes. Et je fuyais parce que j'entendais qu'un troupeau de canards coassants me poursuivait. Et en réalité, ce troupeau de canards n'était pas un troupeau de canards, mais un troupeau de gargouilles. Voilà. Alors c'est encore une fois une impression de peur extrêmement nette, une impression de contact bizarre et douloureux avec la nuit, et en même temps émerveillant. Parce que tout de même, les choses qu'on garde comme ça à travers la vie et qui ne vous quittent jamais, qui finissent par se coaguler, si vous voulez, dans votre, dans le subconscient, c'est tout de même un trésor incroyable.
C'est curieux, il y a une relation très nette entre les deux rêves que vous venez d'évoquer, entre les Allemands et les gargouilles.
Oui,
on
oui.
vous poursuit.
Oui, là, oui, peut-être. Il y a un côté persécution, probablement, chez moi. Mais je me demande si ce n'est pas un peu, je dirais même, le privilège de pas mal de créateurs. La curiosité qu'on éprouve vis-à-vis du monde extérieur vous rend beaucoup plus vulnérable à ce monde extérieur et vous met dans une position perpétuelle de danger. Et en réalité, plus on est curieux, plus on est poursuivi.
On devine aussi, reflété dans le miroir, le plan de la cheminée au-dessus de laquelle est suspendu un grand tableau. Et c'est là, quelque part, en un lieu caché de ce tableau, que risque de se faire jour une vérité depuis longtemps cherchée. C'est une peinture en grisaille que l'auteur n'a pas eu le temps de terminer, à moins qu'il ne l'ait pas voulu. Deux personnages se détachent à l'avant-plan d'un paysage où nuées et collines mal définies se mêlent indistinctement. Un homme vu de dos qui tient embrassé par la taille un ange. L'homme est nu jusqu'à la ceinture, sa tête tournée de profil repose sur la poitrine de l'ange. À droite et à gauche du couple, et l'enveloppant sans le toucher, un jeu de draperies sombres soutenues par le vent et la grise luminosité de l'atmosphère achève de le séparer du monde environnant, lui imposant ainsi un sens magique, douloureux. Je n'ai pas le temps. Je n'aurai jamais le temps de trouver ce qu'il faut trouver, là, si près de moi, si loin, à la fois caché dans les profondeurs du tableau et de l'autre côté du miroir. Mon anxiété devient si vive qu'elle semble imprimer bientôt un mouvement d'oscillation à cet ensemble fictif. Il bouge, se fait réalité. L'ondulation animant les vêtements de plus en plus défaits lâche, gagne les corps. Une cadence naît comme le signe d'une irritation, se précipite. Mais n'est-ce donc pas le sang battant dans ma tête, dans mon cou, dans mon cœur, tendu à l'extrême? Je scrute l'homme, puis l'ange, puis l'homme et l'ange, l'homme et l'ange, l'homme, l'ange, et la certitude enfin m'atteint. Je tombe et c'est comme si je devenais moi-même un ange poussé vers le ciel. L'homme et l'ange ont touché le fond de l'indifférence. Ils l'ont traversé. Enfermés chacun dans son propre infini, après avoir basculé en deçà, au-delà, ils ont su soudain, dans l'éclair d'une rencontre qu'ils ont voulu refuser, à laquelle ils se sont soumis, de laquelle ils ont triomphé ensemble et séparément. Ils ont su que jamais ils ne sortiraient indemnes d'une vie et d'une mort également méprisables.
Dominique Rollin, à quel moment êtes-vous venue en France?
Je suis venue en France après la guerre. J'avais eu un premier mariage en Belgique et puis je suis venue à Paris d'abord pour soi-disant quelques jours et puis enfin ma vie s'est fixée entièrement à Paris. Et après que j'ai obtenu mon prix Femina en 52, Bernard Milleret, mon mari qui était sculpteur et moi, nous nous sommes installés dans une merveilleuse maison que nous avons achetée en Seine-et-Marne. Nous avons toujours adoré la campagne. Et cette maison était située à 40 km, un peu plus, 45 km de Paris, dans la banlieue Est, au bord du Grand Morin, très exactement à Villiers-sur-Morin. Et là, j'y ai vécu de 53 à 59. Mon mari est mort en 57. J'y ai vécu des années extraordinaires. Et là encore, pour moi, cette vie à la campagne a été une proposition de création incessante. En réalité, qu'est-ce qu'un romancier, sinon une sorte de machine enregistreuse, constante, quelque chose qui se laisse impressionner partout. Alors on enregistre, on amasse, les choses ont l'air souvent de disparaître, de rentrer et de s'assoupir, et puis brusquement elles ressortent. Alors j'ai vécu donc là, dans cette maison, qui était beaucoup trop grande pour nous, elle était énorme, 13 pièces, il y avait un pavillon de gardien, il y avait un parc d'un hectare 19 planté de très très beaux arbres. Et c'est durant ce séjour que j'ai écrit d'abord Le Gardien. Le métier de gardien m'avait paru très curieux. Je ne me suis pas servi d'ailleurs du tout, si vous voulez, de ma maison. Mais il y avait dans la région même une maison qui avait un énorme parc, alors énorme, énorme. Et nous avons un jour bavardé avec les gardiens de cette maison. Et c'était très curieux. Ces gens étaient absolument neurasthéniques parce qu'ils étaient en réalité les gardiens de rien. Les propriétaires de la maison ne venaient jamais. C'était des gens, je crois, très riches, habitant Paris. La maison était constamment fermée. Les gardiens étaient juste chargés de l'aérer de temps en temps, d'entretenir un jardin. Et puis, il y avait des bois tout autour. Et ces gens n'ont pas pu supporter cette espèce de déferlement de solitude et d'angoisse. Ils nous avaient parlé de cela d'ailleurs dans des termes extrêmement émouvants et très très beaux. Et j'avais eu l'idée d'écrire l'histoire d'un gardien qui reste dans une maison, vendue à plusieurs reprises, changeant de propriétaire, et lui comme une sorte d'axe central, si vous voulez, de cette maison, qui ne lui appartient pas, mais dont il est en réalité le roi. Après, j'ai perdu mon mari, très vite, il est mort extrêmement vite. J'ai voulu garder cette maison dans laquelle j'avais été extrêmement heureuse. J'ai pensé que je pourrais le faire. D'abord, j'ai imaginé que j'allais pouvoir continuer à garder cette maison vivante. J'y vivais seule avec le chien que nous avions à l'époque, qui était un merveilleux boxer. Mais peu à peu, vous savez, c'est très curieux, une maison où il n'y a plus ce qui a été, c'est-à-dire où il n'y a plus l'existence d'un couple dont chaque élément était créateur, parce que mon mari était sculpteur en taille directe, puis moi j'écrivais. Lorsqu'il n'y a plus ce double élément, la maison peu à peu meurt, pièce après pièce. J'avais beau essayer de garder la vie dans les 13 chambres en question, elles étaient toutes meublées, elles étaient toutes cirées, j'avais des gardiens délicieux que j'aimais beaucoup et qui étaient extrêmement dévoués. Peu à peu, il y avait comme une sorte de gain de la mort sur ces pièces que j'ai fini par ne plus pouvoir supporter. De même pour le parc.
Comment se manifestait cette mort?
Oh, c'est extrêmement difficile à dire. Mais c'est vraiment très sensible. J'ai essayé de rendre ça dans le lit, d'ailleurs. Par exemple, je venais une fois par semaine à Paris pour 2 jours, pour y voir des amis, pour le travail, etc. Quand je retournais dans la maison, même les volets n'étant pas fermés, si vous voulez, au moment où j'entrais dans la salle à manger et dans le salon, il y avait comme une sorte de vernis glacé, mort, sur les objets. On avait l'impression qu'il y avait une distance entre moi et les objets. Il n'y avait plus cette espèce de côté caressant et caressé des objets et des meubles par rapport à moi. Comment vous expliquer de manière plus précise? Les couleurs aussi. J'avais le sentiment, chaque fois que je revenais dans cette maison seule, n'est-ce pas, dans cette maison solitaire. J'avais l'impression que les couleurs cédaient, les couleurs des tissus, des rideaux, des sièges. L'acajou n'avait plus ce côté luisant et chaud. Il y avait un froid. Alors, au bout de 24 heures, cette impression de mort cédait. Je recommençais à vivre. Je vivais sur toute une somme de passés heureux que j'ai pu prolonger assez longtemps, mais pas plus de 2 ans. La même chose pour le parc. C'était un assez grand parc qui était évidemment très mal entretenu. J'aurais dû avoir un jardinier, mais nous n'avions jamais eu suffisamment d'argent. Le gardien ne faisait que cultiver un petit potager. De temps en temps, il fauchait les herbes. Il y avait par exemple le problème liseron. Il faut avoir vécu à la campagne pour se rendre compte, surtout en Seine-et-Marne, il me semble, pour savoir ce que c'est que l'envahissement du liseron sur la part de civilisation qu'on essaye de donner à un jardin. Du jour au lendemain, les liserons devenaient comme des bêtes, c'était des animaux, un déferlement vert, un déferlement charnu, vous savez, profond. Et je me souviens encore aujourd'hui de moments d'angoisse épouvantable et de presque de rage qui me prenaient à l'idée que peu à peu, pour moi c'était la mort, ça, qui gagnait, qui venait. Une sorte de mer verte, n'est-ce pas, qui gagnait, et qu'il fallait à tout prix arrêter en l'arrachant. Et on me disait toujours, si tu veux que l'envahissement des liserons cesse, il faut les arracher profondément, les racines. Alors je passais des dimanches entiers à arracher 3-4 mètres de liserons, dégager des rosiers, enfin quelques rosiers qui étaient pris par les liserons, et puis ça recommençait. Alors là, j'ai senti que je ne pourrais rien et qu'il fallait que je vende cette maison. Et je l'ai vendue, et je suis venue m'installer à Paris.
Les oiseaux sont fous. Derrière la maison, l'arbre dont nous n'avons jamais su le nom porte depuis ce matin son feuillage d'argent gris que nous aimons tant, Martin et moi. En été, les branches recourbées jusqu'au sol font une cage à l'intérieur de laquelle je me retirais pour lire. Isolé ainsi, je n'avais cependant qu'à lever les yeux pour apercevoir, au-delà d'un rideau translucide et bougeant, la succession des plants de verdure. D'abord profonde, très loin là-bas, elle cède à la brume qui monte de la rivière, monte et monte, effaçant les troncs des peupliers. Je ne retournerai plus dans ma cage, où se trouve encore abandonnée une table couverte de crottes d'oiseaux, un fauteuil de fer que les liserons ont ligoté au sol. Je déteste déjà mes anciens bonheurs. Ben me suit, me précède, lave la patte. La journée est belle, l'air sent bon. Mon corps s'emplit d'une faiblesse délicieuse. Je n'ai plus de force.
Le livre, vous l'avez écrit où ?
Je l'ai écrit après mon départ. J'ai quitté Villiers-sur-Morin en 59 et j'ai commencé à écrire le livre en 59, c'est-à-dire 2 ans après la mort de mon mari. Il a fallu de même 2 ans de silence, si vous voulez, et précisément de cette espèce de maturation très, très secrète de tous les matériaux que m'avait apporté à la fois le bonheur et le malheur, puis le basculement du bonheur dans le malheur, pour que je doive, que je sois obligée plutôt de l'écrire, même vis-à-vis de mon mari mort, n'est-ce pas ?
C'est ça,
c'était presque comme si je devais continuer à le garder vivant de cette manière-là.
Il faut préciser que le lit, c'est la relation justement oui. de la mort de votre mari.
Oui, c'est-à-dire que c'est l'histoire du début de sa maladie. Il est mort d'un cancer, n'est-ce pas ? On a mis un certain temps à découvrir que c'était ça. Le roman se passe du mois de septembre au mois de mars et est partagé en mois, septembre, octobre, novembre, décembre, etc., jusqu'au mois de mars. Et en 6 mois, tient donc toute la vie de la narratrice, qui en réalité est moi, tout d'un coup la certitude que tout son univers bascule et s'effondre, tout ce qu'elle a cru solide et qui peut se prolonger très longtemps, et qui brusquement prend contact avec la mort, et vit devant la mort. Ça a été la première fois que j'ai eu ce drame dans ma vie, et je l'ai vécu vraiment de très très près. Alors,
c'est peut-être parce que je viens de vous entendre parler de votre enfance. Mais maintenant, pour moi, ce livre s'éclaire d'une autre façon, car il y a dans ce livre comme un mouvement de la mort qui envahit. Il y a comme une imprégnation. Non, c'est une idée.
Dans le lit ?
Oui.
Mais sûrement, justement, mais c'est ce que j'ai vécu, exactement.
Et alors ça me rappelle ce que vous disiez
oui.
tout à l'heure avec les gargouilles, avec
oui.
les...
Eh bien, je crois qu'en réalité, il y a cette espèce toujours de mouvement. La vie n'est qu'une sorte de lutte contre la mort. Il faut repousser toujours quelque chose qui déferle et qui vient vers vous, que ce soit richesse ou que ce soit épreuve, ou même que ce soit des bonheurs ou des joies. Ou... Il y a cette espèce de progression à travers une matière qu'il s'agit... de tenir un peu à distance pour pouvoir s'en servir.
J'entre la première. Les autres marchent en arrière comme dans les cortèges officiels. Mes pas sonnent durs dans le grand couloir que je longe pour la première fois en souveraine. Mon cœur bat comme si je courais vers un nouvel amour. D'instinct, je tourne aux bons angles, m'arrête à la juste porte. La chambre baigne dans un air différent qui m'oblige à changer allure et geste. Le jour s'est condensé sur le lit, au-dessus duquel est déployé un tissu plastique, dont les plis en forme de rayon, ramassés au sommet d'une potence métallique, la lumière se tend presque liquide. Emprisonné, m'apparaît le visage de Martin qui dort. Il est paisible et rose sous l'abri virginal. Il est de l'autre côté, du côté de la pureté, du sommeil et d'un mystère qui n'a plus rien de commun avec ce que je redoutais de la mort. Ce n'est pas la mort, ce n'est plus la mort, me dis-je avec ravissement. Je me penche pour toucher ses mains posées sur le drap et qui, elles, font partie encore de mon univers. Elles sont fraîches. Martin entr'ouvre les paupières qui filtrent son regard bleu. Martin est une fiancée. Je suis le fiancé. Nous nous sommes retrouvés, elle et moi, et nos noces sont proches. Je pleure. Martin est une merveilleuse jeune fille dont commence à briller le sourire. Je veux l'appeler par son nom. Mais le nom se refuse, et je vois bien qu'elle aussi a oublié mon nom.
Martin est une jeune fille. Je suis un homme et je l'aime. Non, je suis Eva, Eva. Eva, oui. Voilà, je m'appelle Eva. Et je suis une femme qui se penche sur son amour retrouvé. Mon amour, dis-je. Martin remue les lèvres. J'ai mal. Mal de bonheur et de surprise. Il vit. Je vois la vie remonter à la surface de lui-même. Et j'ai envie de lui donner des conseils pour rater la résurrection. J'aimerais toucher sa bouche avec la mienne. Doucement, dit une voix qui restitue sa mesure aux choses. Le visage de Robert est contre le mien, prêt à me voler ma place. Il contemple Martin, comme si de son côté, il avait un message unique à lui transmettre. Ensuite, c'est au tour de Rémi, puis de Marthe, de s'approcher de la paroi translucide. Et chacun, mystérieusement, essaie de rencontrer Martin seul, en quelque région d'extrême privilège. Il nous regarde tous à la fois, avec une ineffable indulgence. Il arrondit sa bouche qui est ma bouche, fait le simulacre d'un baiser qui se perd dans le vide. Nous en prenons chacun notre part. Il ne faut pas le fatiguer, dit Robert. Et il nous tire en arrière. Et nous sortons de la chambre, puis de l'hôpital. Et nous rentrons à la maison.
Je crois, Dominique Rollin, que vos parents sont liés à votre œuvre. De quelle manière ?
J'ai toujours traîné avec moi, tout au long de ma vie et tout au long de ma carrière d'écrivain, mon atmosphère familiale, les drames, les joies, tout ce qui a fait le noyau de mon existence d'enfant. Et ce qui est assez curieux d'ailleurs, c'est que je me suis toujours servi de ma famille. Je peux dire que j'ai trituré ma famille de toutes les manières depuis à peu près 25 ans. Que j'écris, chaque livre est un éclairage différent avec presque toujours les mêmes personnages qui procèdent d'une manière plus ou moins directe de mon père et de ma mère, souvent transposés. Mais il y a certainement un mouvement que je vois se faire chez moi, c'est qu'au lieu que la vie me fasse m'ouvrir vers les choses extérieures et me fasse appréhender, si vous voulez, tout ce qui n'est pas mon intériorité propre, au lieu de cela, j'entre davantage à l'intérieur des choses et j'essaye de retourner aux origines. Si je me suis servi, par exemple, de certains détails de famille pour les Marais, pour des nouvelles que j'écrivais à l'époque, même dans L'ombre suit le corps aussi, et même dans Le souffle, où je me suis servi d'un grand-père comme personnage, eh bien, plus je vais, plus je sens la nécessité d'aller plus à fond dans la chose, de dépersonnaliser ces êtres, si vous voulez, qui me sont très proches, dont je suis faite. Quand j'analyse mon père et ma mère, c'est comme si je me trouvais moi-même. Étant donné que je suis née d'eux, c'est en réalité comme s'ils naissaient de moi en même temps. Il y a une sorte de mouvement d'aller-retour constant qui fait que je ne peux pas me séparer de cette chose. Mon prochain livre sera encore beaucoup plus autobiographique que le précédent, que La Maison, la Forêt.
Pourtant, dans La Maison, la Forêt, il y a deux êtres.
Oui, c'est un livre qui est fait des deux parts qui sont en moi. Je crois que tout créateur a une part mâle et une part femelle. La part mâle est évidemment le père, la part femelle, la mère. Et je pense que cette espèce de mouvement qui m'a poussée à écrire ce livre, qui est présenté sous forme d'un double monologue, le monologue de lui, le monologue de elle, est le désir de retrouver mes sources les plus profondes. Je sais que je leur ai fait beaucoup de mal à mes parents en écrivant ce livre. Au début, ils ont été choqués, dans le sens vraiment d'avoir reçu un choc. Et après, ils ont très bien compris pourquoi je l'avais fait. Et moi, je n'aurais pas pu ne pas l'écrire, ce livre, parce que c'est véritablement ce qui me touche le plus profondément. Et alors, il y a justement ce double thème, la maison étant ma mère et la forêt étant mon père. Mon père a toujours adoré la forêt, il était un merveilleux marcheur, enfin, il l'est encore, d'ailleurs, il vit toujours à Bruxelles, dans cette maison qui était juste à la lisière de cette forêt dont je vous ai parlé. L'univers de ma mère, qui était l'univers du ménage, de la famille, de tous les souvenirs qu'elle a peu à peu accumulés dans cette maison, étant donné qu'elle a eu 3 enfants qui se sont mariés, qui ont eu à leur tour des enfants, après l'avoir quittée. Et mon père et ma mère sont restés seuls dans cette maison, seuls, avec leur présent qui en réalité est fait non seulement de leur passé à chacun, mais de tous les passés qu'ils ont engendrés en créant une famille, et en créant une famille qui, après, se démantèle. Mais il y a un esprit qui reste vivant, qui reste extraordinaire. Chaque fois que je retourne dans cette maison de mon enfance, j'ai l'impression d'être reprise par cette espèce de poursuite dont je vous parlais, justement. Un peu comme écrasée, qui est merveilleusement excitant pour quelqu'un qui désire produire une œuvre.
Vous posez dans ce livre le problème de la communication entre les êtres.
Oui, j'ai construit le livre donc comme un double monologue, parce qu'en réalité mes parents, qui ne peuvent absolument pas se passer l'un de l'autre, ils sont âgés, mon père a 80 ans, ma mère en a 84, vivent ensemble, ne se parlent que très peu, et on sent très très bien que leurs deux mondes intérieurs de temps en temps se rencontrent, se touchent, passent, s'éclipsent l'un l'autre, exactement comme deux astres, n'est-ce pas, qui se superposent et qui s'éloignent et qui se rejoignent, mais sans qu'ils le sachent, ni l'un ni l'autre. Pour chacun, ils vivent entièrement fondés sur leur bloc individuel, et en réalité, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une osmose entre les deux constante. C'est peut-être cela, la communication parfaite. Sans mots, ça se passe dans le silence, ça se passe dans une épaisseur d'habitude au jour le jour. Il y a 53 ans qu'ils sont mariés.
Et la présence de ce chien?
Ah oui, dans le livre, oui. Eh bien oui, la présence de ce chien, c'était un tiers absolument étonnant. C'était une chienne d'ailleurs, une chienne cocker. Mon père a toujours eu des chiens. Une fois qu'il a été plus âgé, cette chienne a représenté pour lui quelque chose d'extraordinairement important. Elle a vécu sa vie de chienne, c'est-à-dire pas tellement longtemps, 12 ou 13 ans, et puis elle est morte. Et au moment où elle est morte, elle est devenue, pour mon père et pour ma mère, donc pour le lui et l'elle de mon roman, elle est devenue comme une sorte de lien à travers sa mort.
Il semble, maintenant c'est peut-être une idée personnelle, que votre père soit plus vulnérable.
Oui, sûrement. Je pense d'ailleurs que les hommes en général le sont. Ma mère est un être étonnant, une personnalité d'une énergie, d'une vitalité absolument admirable, qui a créé justement cette espèce d'automatisme sans jamais la moindre défaillance. Elle s'est permis d'être malade une seule fois dans sa vie, une seule fois. C'est-à-dire qu'elle a permis une sorte d'abandon d'elle-même une seule fois dans sa vie, sinon elle a toujours été comme ça d'une discipline fantastique. Et elle a cet univers concret de la femme qui vit avec l'idée des enfants, avec l'idée du foyer, du devoir, du dévouement. Mon père, lui, c'était l'évasion. C'est pour ça que j'en ai fait la forêt, si vous voulez. C'était l'évasion, c'était le désir de fuite, c'était le côté en même temps contemplatif. Mon père a toujours été un contemplatif, une sorte de poète qui ne s'est pas réalisé en tant que poète. Il a été bibliothécaire pendant toute sa vie. Mais il m'a dit qu'il était heureux. Qu'il était heureux parce que pour lui, la vie n'était qu'une sorte de berge de laquelle il pouvait considérer le monde, voir les êtres. Pour lui, c'était le désir de contact qui comptait plus que le contact dans tous les domaines. La contemplation.
Mon dos appuyé au mur brûlant. L'angle d'ombre se ferme à mes pieds. Le soleil me touchera dans un instant et le carillon projette un vol de corneilles qui se rassemblent ensuite au fond du silence rétabli. De la même manière, je suis mort dans ce jardin le soir du mariage de Ré. J'y pense aujourd'hui pour ramener un équilibre que la nuit avait alors rompu. Je sors de la maison où l'on rit beaucoup, je gagne la terrasse, je m'adosse au mur, et je vois apparaître un peu plus tard Ré et sa femme qui vont jusqu'au pommier. D'abord il parle bas, puis haut, et je l'entends demander si elle est heureuse. Elle éclate en sanglots, il caresse ses cheveux argentés. Ensuite, m'apercevant, il m'invite à m'asseoir auprès d'eux dans l'herbe et me dit « Tu entends ? Moi non plus, je ne suis pas heureux. » Sa voix craque. Il essuie avec son mouchoir les yeux de sa femme et les siens. Leur visage est un peu tiré dans le clair de lune. La robe de la mariée remue dans un coup de brise et tout à coup la mort apparaît à la surface des herbes, amenant des ombres odorantes, riches, restées invisibles jusque-là. Elle monte, vapeur oisive, traîne d'abord autour du jeune couple qui se dispute sotto voce, puis vient vers moi. Nous sommes pris tous les trois dans son épaisseur caressante où je devine un travail. Les insectes du monde, et les vers, et les racines, et les cailloux y sont contenus. Et c'est alors que m'est révélée pour la première fois l'inexistence du vide. Toujours s'appuyer, s'enfoncer, descendre, collaborer à la mixture universelle de mort, ni commencement, ni fin, ni envers, ni endroit, ni haut, ni bas. Car le ciel entrevu à travers les branches du pommier, et le reflet de la fourmillante étendue terrestre, nulle échappée n'est possible.
Avez-vous l'impression que des générations différentes peuvent communiquer ensemble ?
Non, je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit possible directement. Mais c'est très possible, d'une manière tout à fait détournée.
Pourquoi dites-vous que vous ne croyez pas ?
Je dis ça parce que j'ai une fille, par exemple, qui est mariée, qui a des enfants, qui a fait sa vie au loin, en Extrême-Orient. Son mari, elle adore ça. Nous avons eu pendant des années... Pendant toute son enfance et son adolescence, nous avons été extraordinairement proches l'une de l'autre. Elle a été élevée en partie par ma mère, d'abord à Bruxelles, et puis elle est venue vivre avec nous dans cette maison de Seine-et-Marne. Et comme elle était extraordinairement douée pour le dessin et la peinture, mon mari, Bernard Milleret, voulait qu'elle vive comme une artiste, avec deux artistes. Alors nous l'avons mêlée à cette vie de création, ce dont elle nous a été merveilleusement reconnaissante au moment de son adolescence. Et après, lorsqu'elle a voulu faire son propre univers, c'est-à-dire lorsqu'elle a trouvé son mari et qu'elle s'est mariée, ça s'est passé d'ailleurs après la mort de mon mari, il me semble qu'elle a eu comme une sorte, pas de rancune, mais elle a voulu s'écarter de moi. Et nous avons eu des années comme ça de distance, sans communication possible. J'avais beau essayer, ça ne se faisait pas. Et maintenant ça recommence, mais par voie détournée. Elle a lu mon livre, La maison à la forêt, et elle m'a dit qu'elle en avait été bouleversée, et que ça la remettait dans certaines atmosphères qu'elle avait connues d'une manière extraordinairement intime elle-même. De sorte que par voie détournée, elle me fait savoir, elle me prévient que la communication est possible. Et c'est merveilleux, non ? C'est ça qui compte, c'est pour ça qu'on vit, c'est pour ça qu'on écrit.
Existe-t-il pour vous des analogies entre la création pour un romancier et la création pour un sculpteur, par exemple ?
Ah oui, justement, comme j'ai vécu pendant 10 ans avec un sculpteur qui était particulièrement un sculpteur de taille directe, c'est-à-dire qu'il prenait un bloc de marbre ou de pierre et il me disait, tu vois, dans ce tronc d'arbre ou dans ce bloc de marbre, il y a une femme nue dont il devinait l'attitude, une femme couchée ou une femme en train de se coiffer, enfin, toujours très bloquée. Il était un peu, si vous voulez, de l'école de Renoir, si vous voyez une sculpture heureuse, une sculpture charnue. Et il était très frappé précisément des rapports qui existaient entre son pouvoir créateur et le mien. Il me disait, c'est étrange de voir que je fais une sculpture comme toi tu fais tes romans. En réalité, quand je commence à entamer un marbre ou un tronc d'arbre, il faut que je tape dans la matière jusqu'à ce que je touche un point de la figure qui est prisonnière. Je ne peux pas aller plus loin parce que si je vais plus loin, je la blesse. Alors pour lui, il fallait arriver à enlever tout le superflu et arriver à la forme. Et en réalité, pour un roman, c'est exactement la même chose. Je crois qu'il faut commencer un livre sans avoir un plan. Enfin, de moins en moins, j'ai un plan arrêté. J'ai une série de thèmes, si vous voulez, qui peuvent être comparés, si vous voulez, à une sorte de matière brute. Et devant cette matière brute qui m'occupe, qui est exactement en moi sans cesse, qui m'obsède, il s'agit de trouver une forme qui est prisonnière et de la sortir peu à peu. Et ça, cela se fait au jour le jour, d'heure en heure, de seconde en seconde, à tout moment de la vie. Il y a évidemment le moment de l'écriture. Le livre ne commence qu'à partir du moment où on a sa feuille de papier devant soi. Le roman se passe au moment où on commence à l'écrire, si vous voulez. Mais l'élaboration secrète du livre se fait à tous les instants.
C'était Impromptu de vacances, une émission de Harold Portnoy. Ce soir, entretien avec Dominique Rollin. Texte lu par Elisabeth Azan. Assistante Yvette Tujban. Collaboration technique Yann Parentoen. Cette émission a été diffusée la première fois le 2 août 1965 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.